Vers temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Jean-Roger Billon à ce microphone. Dans un instant, le magazine économique dont voici les grands titres. À l'occasion des réunions de printemps de la Banque mondiale, Fonds monétaire international, le ministre guinéen de l'économie et des finances se confie à la Voix de l'Amérique.
Je pense qu'il était bon pour nous aujourd'hui, après la mise en place de l'Assemblée nationale, prendre contact avec les institutions multilatérales et ensuite le gouvernement américain à travers tous ses organes.
On entendra M. Mohamed Diarré, le ministre d'État. À New York, le premier ministre ivoirien évoque certains des défis économiques de son pays qu'il entend relever. Puis l'ONG Sea Shepherd appuie les efforts du Sénégal pour mitiger le pillage des ressources halieutiques. Tous ces titres et d'autres seront développés dans moins de 5 minutes. Mais tout d'abord, un bulletin d'information. On n'en finit pas avec l'Ebola en Afrique de l'Ouest. C'est l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui estime que la fièvre hémorragique a fait au moins 121 morts. On compte désormais 200 cas suspects ou confirmés. La plupart des victimes sont en Guinée, où les responsables signalent 168 cas, dont 108 décès, tandis que le Libéria fait état de 13 décès. Des médias rapportent que les autorités gambiennes ont ordonné aux compagnies aériennes de ne pas prendre de passagers en provenance des pays touchés. 4 mois pour être nécessaire pour contenir l'épidémie selon l'OMS. En Libye, des hommes armés ont enlevé l'ambassadeur de Jordanie ce matin. Les ravisseurs sont arrivés dans 2 voitures. Eux ont ouvert le feu sur le cortège de l'ambassadeur Fawaz al-Ethan au moment où il faisait son entrée dans la ville, non loin de l'ambassade de Jordanie. Son chauffeur a été blessé dans l'attaque. Le mobile de l'enlèvement reste inconnu. Cependant, l'agence de presse Reuters cite un chercheur libyen qui annonce que les assaillants ont exigé la libération d'un ressortissant libyens emprisonnés en Jordanie. Au Nigeria, des jeunes filles ont été enlevées dans un établissement d'enseignement secondaire du nord-est du pays. Les autorités imputent l'enlèvement à la secte islamiste Boko Haram. On parle d'environ 200 lycéennes. Les précisions sur place de notre correspondant Adamou Aboubakar Gwazo.
C'était hier le lundi soir à 21h. Des militants de Boko Haram sont arrivés dans l'école qui a plus de 250 étudiants. Ils ont pu enlever 200 étudiants. Le directeur de la police, il m'a confirmé. Il y a eu même deux agents de la sécurité de l'école qui ont perdu leur vie lors des échanges du feu. Donc, c'était les militants de Boko Haram, comme vous le savez, ils sont contre l'éducation au Sudan. Ils avaient souligné la semaine passée qu'il faut qu'aucune fille aille à l'école. Donc, c'est ça, maintenant, ils sont allés attaquer une des écoles qui se trouve à la frontière de Adamawa et Borno pour enlever plus de 200 étudiants. Le boss de la police à Maiduguri, M. Lawal Tanko, il avait souligné qu'ils sont toujours en train d'enquêter où se trouvent les enfants. Donc, il n'a pas pu donner beaucoup de détails. Quand je lui ai posé la question, comment on peut trouver les filles, il m'a souligné. Donc, il faut qu'on laisse le temps au temps parce qu'il dit qu'ils sont en train de faire des investigations pour avoir des sources de filles.
En Ukraine, le président intérimaire Oleksandr Turchynov annonce le lancement de l'opération contre les manifestants pro-russes qui occupent des bâtiments gouvernementaux dans l'est du pays. Michel Joseph.
Pour Oleksandr Turchynov, l'opération est menée de manière graduelle et réfléchie dans la région de Donetsk où les forces pro-Moscou ont ignoré les multiples ultimatums de Kiev. Il a dit aux parlementaires ukrainiens que la Russie a délibérément exacerbé la situation dans l'est. Selon le président intérimaire de l'Ukraine, les intentions des Russes étaient et restent brutales. Selon lui, ils veulent embraser tout le sud et l'est de l'Ukraine. Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a averti que Moscou pourrait se retirer du sommet prévu ce jeudi à Genève si Kiev use de la force. Pour sa part, le président Obama a dit à son homologue Poutine de s'attendre à de nouvelles sanctions si la Russie ne met pas fin à ses activités dans l'est de l'Ukraine. Les deux leaders ont eu lundi une autre conversation téléphonique.
Aux États-Unis, cérémonie du souvenir du premier anniversaire des attentats de Boston. 3 personnes avaient été tuées, plus de 260 blessés. Une cérémonie a eu lieu aujourd'hui au Heinz Convention Center de Boston. Place maintenant sur la Voix de l'Amérique au magazine économique Camille Gros-Didier.
« Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. À l'occasion des réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, le ministre guinéen de l'économie et des finances s'est confié à la voix de l'Amérique.
Je pense qu'il était bon pour nous aujourd'hui, après la mise en place de l'Assemblée nationale, prendre contact avec les institutions multilatérales et ensuite le gouvernement américain à travers tous ses organes.
On entendra M. Mohamed Diarré, ministre d'État. À New York, le Premier ministre ivoirien évoque certains des défis économiques que son pays entend relever.
Actuellement, nous avons autour de 300 000 touristes. Parce qu'avec la crise, le chiffre était tombé trop bas. On est remonté autour de 300 000 touristes. L'objectif donc du ministre est d'atteindre, disons que 500 000 touristes en 2015.
Daniel Cablan-Duncan évoquera l'importance du tourisme et le rôle de la diaspora ivoirienne. Et puis l'ONG Sea Shepherd appuie les efforts du Sénégal pour mitiger le pillage de ses ressources halieutiques. Des réunions de printemps Banque mondiale, Fonds monétaire international, le ministre guinéen de l'économie et des finances s'est confié à la Voix de l'Amérique. On écoute M. Mohamed Diarré.
Je pense que c'est une mission qui a parfaitement réussi parce qu'aujourd'hui les progrès sont palpables en Guinée grâce aux réformes soutenues par le président de la République, le professeur Alpha Condé, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan de la réforme des services de sécurité, de la justice, de l'amélioration du climat des affaires. Je pense qu'il était bon pour nous aujourd'hui, après la mise en place de l'Assemblée nationale, prendre contact avec les institutions multilatérales et ensuite le gouvernement américain à travers tous ses organes qui peuvent éventuellement s'engager dans le processus de développement de la Guinée. Nous avons rencontré la Chambre de commerce des États-Unis. Donc je pense que c'est une mission qui a parfaitement réussi.
L'année dernière, la Guinée a connu des difficultés compte tenu du choc politique mêlé à des remous sociaux. Est-ce qu'aujourd'hui, les indicateurs macroéconomiques de la République de Guinée sont porteurs d'espoir?
Oui, vous avez parfaitement raison. Aujourd'hui, les indicateurs qu'on a sont porteurs d'espoir. Et il faut rappeler, comme vous l'avez dit, l'année dernière, ça a été un peu difficile pour nous. Il y a eu deux chocs. Le premier, c'était le choc sur le secteur minier. On a vu la baisse du volume des investissements du projet Simandou, la fermeture de l'usine de Frigia et aussi la baisse du prix de l'or sur le marché mondial et la diminution de la teneur en or de la SAD. Et ça, combiné avec les mouvements sociaux, avant les élections législatives, ont joué un sale tour à l'économie guinéenne, ce qui a fait que nous avons eu à projeter au début de l'année un taux de croissance de 5%, mais malheureusement, nous sommes sortis avec un taux de 2,5%. Mais cette donne a changé, ou va changer en 2014, parce que l'Assemblée est mise en place, la session parlementaire a commencé, les députés sont en place, sont en train d'examiner les projets de loi que le gouvernement a transmis au niveau de l'Assemblée nationale. Et également, les premières tendances de mobilisation des recettes au début de l'année sont très bonnes. La douane a dépassé ses performances, ont dépassé les prévisions au 31 mars 2014. Et également, nous avons mis en place toute une réforme au niveau de la coordination du gouvernement. Il y a un comité de coordination des réformes a été créé sous la présidence du Premier ministre qui va rendre compte à chaque 3 mois au président. Il y a un comité technique d'appui à ce comité de coordination économique et des réformes. Et ensuite, il y a la cellule technique de suivi du programme qui est une structure pérenne au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. Toutes ces institutions sont chargées de coordonner les différentes politiques que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc nous pensons que les projections de croissance de 2014, 4,5% de croissance économique vont tenir. Et également, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation aussi baisse. Au 31 décembre 2013, l'inflation était mesurée à 10,5%. Un glissement annuel. Aujourd'hui, au mois de février, elle a été mesurée à 10,2%. Nous avons un objectif de 8,5% en fin d'année. Donc, je pense que avec l'accalmie sur le plan politique et la reprise lente mais soutenue de l'économie et les projets d'investissement tels que définis dans le plan stratégique, je pense que effectivement, la Guinée peut avoir un niveau de croissance en 2014 largement supérieur à celui de 2013.
Croissance en 2014 largement supérieure à celle de 2013, un espoir. Mais vous savez, Monsieur le Ministre, l'un des problèmes clés en Afrique reste la lutte contre la corruption. Et qui parle de croissance parle de la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance. Pouvez-vous offrir des garanties au peuple de Guinée, à tous ceux qui nous écoutent, pour dire que oui, l'économie guinéenne va donc rebondir et je vous assure que la lutte contre la corruption fait partie de vos priorités. Est-ce que cela fait partie de vos priorités?
Non, je pense que c'est clair, cela fait partie des priorités du professeur Alpha Condé. Si vous prenez le secteur minier, les premières réformes c'était sur le code minier. Et ça a été fait, les textes d'application ont été signés. Et là, on a dit que désormais, notre leitmotiv dans le secteur minier, et d'ailleurs dans les ressources naturelles, c'est garantir la transparence, lutter contre la corruption et garantir aussi le partage équitable des revenus entre nous et n'importe quel investisseur.
On écoutait M. Mohamed Diaré, ministre de l'économie et des finances de Guinée. Il était interrogé par Georges Léonard Sagno. Washington, Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Le premier ministre de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan-Duncan, a participé lundi à New York à un forum sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. C'était à l'invitation des milieux d'affaires et il en a profité pour évoquer le tourisme, secteur qui doit renouer avec la reprise maintenant que la crise politique est en voie de résolution. On écoute M. Kablan-Duncan qui s'exprimait lors d'un point de presse à New York.
Je crois que le ministre du tourisme est déjà passé à plusieurs reprises dans les pays développés, que ce soit donc en France, disons qu'en Europe et même, je crois, ici aux États-Unis. Le tourisme est important en ce sens que ça apporte beaucoup d'investissements. L'objectif, actuellement, nous avons autour de 300 000 touristes. Parce qu'avec la crise, le chiffre était tombé trop bas. On est remonté autour de 300 000 touristes. L'objectif, donc, du ministre est d'atteindre, disons que 500 000 touristes en 2015. Et je crois autour donc de 2 millions de touristes en 2020. Et 2030, notre gouvernement doit l'aider à réussir donc ce pari, parce que c'est à la fois, bien sûr, des investissements, des exportations, puisque le touriste qui vient et qui achète localement, c'est comme une exportation que l'on a, mais aussi ça crée des liens entre les peuples et aussi ça fait connaître la culture ivoirienne à l'extérieur. Donc le tourisme est un des grands secteurs de l'économie mondiale. Et la Côte d'Ivoire entend prendre sa part.
Par ailleurs, le Premier ministre ivoirien a déploré que la diaspora ivoirienne ne joue pas un rôle plus important dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. On écoute à nouveau Daniel Kablan-Duncan.
Il faut dire que cette part est faible, parce que c'est maintenant qu'on est en train d'organiser la diaspora pour investir dans leur pays. Le président de la République, lors de ses différents voyages, a, disons que, préconisé soit le retour des Ivoiriens, soit, disons que, l'organisation des Ivoiriens à l'extérieur, de manière à ce qu'ils puissent trouver des partenariats pour investir donc dans le pays. Je disais tantôt que nous avons des missions de la diaspora qui sont venues en Côte d'Ivoire, notamment celles donc de France et d'Europe, et qui veulent investir dans certains secteurs, comme le secteur donc de l'électricité, comme dans le secteur donc des bâtiments. Et nous sommes en train de travailler avec ces investisseurs donc des diasporas. Et je dois dire qu'il faut créer des structures qui permettent d'améliorer l'environnement d'investissement pour la diaspora. Je disais tantôt qu'il faut mettre en place un conseil supérieur de la diaspora à l'étranger qui regroupe toute la diaspora. Il faut aussi que dans chaque pays, il y ait des représentants de cette diaspora. Par exemple, aux États-Unis, on a rencontré, lorsque nous étions donc à Washington, mais déjà, disons que on a vu que dans la capitale, il y a déjà deux groupes. Vous voyez, il y a un groupe ici à New York, etc. Mais il faut qu'on ait un ensemble, un seul groupe qui représente toute la diaspora aux États-Unis. Quitte à ce qu'il y ait des représentations locales, mais quand on dit qu'on veut travailler avec quelqu'un de la diaspora ici, il faut qu'on ait une personne ou un groupe de personnes qui constitue le bureau qu'on rencontre. C'est un travail qui doit se faire. Et ensuite, on va avoir donc un conseil supérieur de la diaspora pour tous les continents. Voilà. Donc ça, c'est important parce qu'on veut mettre en place un fonds pour aider la diaspora à investir. Parce que souvent, ils ont des problèmes, non pas seulement donc de fiscalité, mais aussi des problèmes de ressources pour investir. Et que fois, ils viennent avec des partenariats avec les représentants donc, des pays, mais ils n'ont pas souvent les fonds dans ce domaine. Donc c'est ce travail qui est en cours d'être fait avec le ministre en charge donc, d'intégration africaine et disons que des Ivoiriens de l'extérieur, le ministre Ali Koulibaly. Donc c'est un dossier important pour l'avenir.
À noter que le Forum économique de New York n'était qu'une des rencontres auxquelles l'administration Alassane Ouattara a tenu à être représentée. Mais voilà, ces réunions aboutissent-elles à des accords concrets, des investissements réels? Le premier ministre ivoirien, Kablan Duncan, répond.
Non, vous avez raison qu'effectivement, nous avons organisé plusieurs forums pour essayer donc de vendre la Côte d'Ivoire. Le président de la République lui-même a eu à bouger à plusieurs reprises. En venant ici, nous avons fait un forum à Paris pour rencontrer le CIAN, qui est en charge donc d'investissements donc français donc à l'extérieur. Et nous avons rencontré, comme je l'ai dit tantôt, le Corporate Council en Africa à Washington. Effectivement, nous rencontrons les investisseurs ici à New York. Quelles sont les prochaines étapes? C'est l'Asie. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs asiatiques. Le président de la République est déjà allé à Pékin pour rencontrer, disons que les investisseurs donc asiatiques chinois. Mais il faut continuer, à la fois au niveau donc de la Chine, mais aussi au niveau des pays comme la Corée. Disons qu'aller vers des pays comme Singapour, etc. Et qui sont déjà commencés à venir en Côte d'Ivoire, mais pour pouvoir les amener à être plus efficaces et présents. Vous avez par exemple l'Inde qui investit dans le domaine des mines en Côte d'Ivoire, etc. Donc, ce qui est important dans ces forums, c'est après le suivi. Et s'assurer qu'après quelques temps, 6 mois, 1 an, on puisse faire le bilan pour dire, mais écoutez, il y a eu tant de milliards d'intentions d'investissement. Voilà ce qui s'est passé 1 an après. C'est ça qu'il faudrait pouvoir suivre. Et c'est ce travail-là que le président de la République a demandé à l'ensemble du gouvernement donc, de faire. Et je pense, et quand vous voyez les taux de croissance de la Côte d'Ivoire, ce sont les résultats de ce travail-là qui sont perçus parce que, je l'ai indiqué, on a fait quand même du 9,8% de croissance en 2012, 8,7% en 2013, et nous pensons cette année avoir une croissance à 2 chiffres, 10% en 2014 et 2015. Voilà ce que je l'ai indiqué.
Le Premier ministre ivoirien, Daniel Kablan Duncan, qui s'exprimait à New York au terme d'un forum sur les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Gros-Didier. Je vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie. L'ONG Sea Shepherd a récemment lancé une campagne pour aider le Sénégal à lutter contre la pêche illégale. Dans le cadre de cette opération Sunugal, elle a mis un bateau et son équipage à la disposition de l'administration du président Macky Sall pour l'aider à patrouiller ses eaux territoriales. Une mesure qui a déjà donné des résultats avec l'arraisonnement d'un navire récidiviste, l'Oleg Neydenov, accusé de piller systématiquement les eaux sénégalaises et qui a pu être condamné à une lourde amende. On revient sur cette problématique avec Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd de France.
Oui, donc effectivement, au large de l'Afrique de l'Ouest, c'est là qu'on enregistre le plus gros de la pêche illégale au monde, avec à peu près 30%, soit environ 7 milliards de dollars de poissons qui sont volés chaque année à l'Afrique. Donc le problème, c'est aussi que ce sont des pays qui n'ont pas les moyens de surveiller leurs eaux territoriales, pas suffisamment en tout cas. Sur le Sénégal, c'est 700 km de côte qu'il s'agit de surveiller. Et le gouvernement n'a malheureusement pas suffisamment de navires à disposition pour le faire efficacement. Donc tout l'objectif de cette campagne de Sea Shepherd là-bas, c'est de mettre en place ce partenariat, ces patrouilles en commun. Donc on met un navire à disposition avec un équipage.
Mais c'est un équipage sénégalais, c'est un équipage composé de qui ?
Alors pour l'heure, c'est un équipage international de Sea Shepherd, mais les Sénégalais sont la bienvenue à bord. D'ailleurs, on compte embarquer prochainement quelques pêcheurs avec nous, parce que ils sont extrêmement motivés par la démarche. Eux-mêmes, les petits pêcheurs locaux là-bas sont les premières victimes de cette pêche illégale. Et en même temps, ils sont aussi une source d'informations très, très intéressante pour nous, puisqu'ils connaissent très très bien le contexte. Donc on a l'intention de collaborer encore plus activement avec eux.
Alors récemment, ces efforts ont donné des fruits, puisqu'il y a eu l'arraisonnement du chalutier russe Oleg Neydenov et sa condamnation à une amende de 400 millions de francs CFA. Est-ce que cette amende a été versée ou en est-on de ce côté-là ?
Alors c'est l'armée sénégalaise qui a permis d'arrêter ce bateau, puisque les personnes à bord ne voulaient pas se rendre. Donc ça a été très difficile de l'arraisonner. Ils ont finalement réussi à le faire. Et oui, effectivement, l'amende a été payée. Et ça n'est qu'une fois que l'amende a été payée que le navire a été relâché.
En fait, la sous-région est en quelque sorte condamnée à s'entendre parce que la pêche illicite ne touche pas seulement le Sénégal, mais tous les pays qui ont une côte.
Absolument, absolument. Il faut que les pays de la sous-région travaillent ensemble pour lutter contre la pêche illégale s'ils veulent pouvoir résoudre leurs problèmes même au niveau local. La coopération entre les États, à ce niveau-là, elle est indispensable.
Et est-ce que vous avez le sentiment que de ce côté-là, il y a une prise de conscience des autorités ?
Je pense qu'il y a une prise de conscience qui se fait un peu par la force des choses, parce que les populations locales sont de plus en plus acculées. Au Sénégal, c'est très criant. Les petits pêcheurs demandent de manière de plus en plus virulente au président Macky Sall de durcir la loi contre la pêche illégale et notamment de la pêche illégale étrangère, parce que ce sont eux finalement les premières victimes de ce pillage. Donc les autorités vont être en quelque sorte obligées de renforcer les contrôles. Alors, il y a aussi tout un travail à faire au niveau de l'opinion publique en Europe, en Russie, en Asie notamment. De nombreux bateaux qui pêchent illégalement dans les eaux africaines, finalement, approvisionnent les marchés, les poissonneries européennes, asiatiques et russes. Donc, il faut que les consommateurs dans ces pays-là soient conscients du fait qu'une grande partie du poisson qu'ils achètent est en fait un poisson qui est volé aux populations les plus pauvres du monde. C'est un poisson qui est volé à l'Afrique. Donc la traçabilité est très très difficile à établir. Et dans un pays comme la France par exemple, une étude qui est parue l'année dernière qui démontrait que les Français, à partir du mois de juin, commençaient à manger le poisson des autres. Pourquoi ? Parce qu'on a surexploité nos propres réserves. Et donc c'est un poisson qu'on va pêcher là où il en reste encore, c'est-à-dire principalement en Afrique.
Madame Lamia Essemlali, présidente de Sea Shepherd de France, elle était jointe au Sénégal. Camille Grosdidier qui vous accompagne pour le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique. L'aide au développement a augmenté de 6,1% en termes réels en 2013. Pour atteindre son plus haut niveau historique, a annoncé récemment l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Selon l'enquête menée par le Comité d'aide au développement de l'OCDE, les niveaux d'aide pourraient continuer d'augmenter en 2014 avant de se stabiliser. Néanmoins, a poursuivi l'OCDE, il semble probable que la tendance à la baisse de l'aide destinée aux pays les plus pauvres d'Afrique subsaharienne se poursuive. À ce sujet, l'ONG One France déplore que l'aide de la France aux pays les plus pauvres soit en chute de près de 10%. La France n'a alloué qu'un peu plus de 0,4% de son revenu national brut à l'aide au développement, explique Frédérique Rode, directrice de One France.
L'aide publique au développement a augmenté de 6% à l'échelle mondiale en 2013. C'est une bonne nouvelle, mais malheureusement, la performance de la France est à contre-courant. Et nous sommes très inquiets parce que, tout d'abord, c'est une chute marquée de l'aide de la France en 2013. C'est une chute de 10%. Ce n'est pas la première année, mais c'est la troisième année consécutive que l'aide au développement de la France baisse. Et c'est une aide qui, bien sûr, est particulièrement important pour les pays les plus pauvres. Donc 10%, c'est une baisse, une coupe de 920 millions d'euros. C'est un chiffre abstrait, mais ça se traduit en vie humaine. Pour vous donner une idée concrète, 920 millions d'euros en moins, ça veut dire 3 millions de personnes séropositives qui n'auront plus accès à des traitements antirétroviraux et des vaccins vitaux en moins pour 10 millions de bébés.
Et en fait, il s'agit d'enfants, de bébés, surtout d'Afrique subsaharienne, parce que l'aide au développement de l'Afrique subsaharienne baisse.
Alors, l'aide vers l'Afrique subsaharienne avait baissé de manière disproportionnée les dernières années. Pour 2013, nous n'avons pas encore les détails des chiffres, mais nous craignons bien sûr que cette baisse déjà disproportionnée en 2012 se poursuit en 2013, ce qui serait une catastrophe pour les pays les plus pauvres du monde.
Est-ce qu'on comprend cette baisse de l'aide de la France au développement? Parce que traditionnellement, la France a alloué quand même un pourcentage assez considérable de sa richesse nationale au développement.
Tout à fait. La France a été historiquement un des plus grands donateurs. Encore dans les années 60, on allouait bien plus d'1% de la richesse nationale à l'aide publique au développement. Et encore en 2010, on était à un ratio de 0,50% de la richesse nationale brute allouée à l'aide publique au développement. Aujourd'hui, on est à 0,41%. Donc c'est une chute marquée des dernières années. Et cette chute est d'autant plus inexplicable que d'autres pays donateurs ont augmenté leur aide de manière significative les dernières années. Et c'est des pays qui, comme la France, ont traversé des difficultés économiques. Il suffit de citer l'exemple du Royaume-Uni, qui, malgré un budget d'austérité, a augmenté de manière significative son aide pour atteindre l'objectif historique des 0,7% l'année dernière, avec une hausse de 30%. Donc on a le Royaume-Uni qui augmente son aide de 30% et on a la France qui, elle, coupe son aide de 10%.
Frédérique Roder, directrice de One France, elle était jointe en France. Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie. Et pour finir cette édition, quelques nouvelles de l'actualité économique en Afrique et ailleurs avec Lionel Gaïma.
La FAO exhorte le pays à redoubler de vigilance contre la jaunisse fusarienne, une des maladies les plus destructrices de la planète pour les bananiers. Elle s'est récemment propagée de l'Asie à l'Afrique et au Moyen-Orient et menace de s'étendre aux pays d'Amérique latine. La souche tropicale race 4 de la maladie, également connue sous le nom de maladie de Panama, constitue une très grave menace pour la production et l'exportation de ce fruit et donc la sécurité alimentaire mondiale, avertit la FAO. À l'ouverture de la deuxième conférence internationale et exposition sur les hydrocarbures au Congo-Brazzaville, le ministre d'État Firmin Ayessa a invité les investisseurs et les partenaires à venir développer le secteur pétrolier qui joue, a-t-il rappelé, un rôle stratégique dans l'économie nationale. Les Nations Unies ont exhorté l'Afrique à créer des institutions crédibles pour relancer l'industrialisation. Le Tchad a entamé des négociations avec le Fonds monétaire international pour une facilité élargie de crédit d'un montant de 130 millions de dollars. Selon le ministre tchadien de Finances, Bedoumra Korje, N'Djamena espère conclure ses discussions avec le FMI dans la seconde moitié de l'année. Et enfin, le Parlement européen a adopté mardi une très large majorité un ensemble de textes complétant l'union bancaire, ce qui permettra à l'avenir d'éviter que les faillites de banques de la zone euro ne soient supportées à l'avenir par de contribuables.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.